entre les amiches et le transhumain, entre la lampe à huile et le maillot de bain connecté qui vous dit quand vous retournez pour ne pas cuire au soleil, il existe des alternatives. Le progrès technique n'est pas une fin en soi, et lorsqu'il nous est imposé en dépit des catastrophes écologiques et des drames humains qu'il charrie, il pose des problèmes de démocratie et de choix de société. Nicolas Bérard, journaliste, enquête depuis plusieurs années sur les questions de l'énergie, des ondes et de la Smart City. Il a récemment publié 5G Mon Amour, une enquête sur la face cachée des réseaux mobiles, qui nous renseigne sur les risques sanitaires, écologiques, politiques que comporte le déploiement de la 5G. De passage dans la région, nous avons enregistré la conférence qu'il a donnée à Le Forêt.
Bonsoir à tous et merci d'être venus. Je voulais déjà remercier Pierre, les associations, les collectifs, monsieur le maire qui nous accueille ici, parce que effectivement, comme ça vient d'être dit, en fait, il y a une vraie nécessité, à mon avis, de parler de la 5G. Et il y a un vrai déficit de démocratie qui est vraiment flagrant autour de ce projet. Parce que les questions, en fait, ne sont jamais posées. On constate déjà que c'est un projet qu'on nous annonce une fois qu'il est lancé, quasiment. Les citoyens n'ont jamais été informés clairement sur ce projet-là. Et aujourd'hui, quand on essaye de s'exprimer, de prendre la parole, on voit qu'on se heurte à un mur et qu'on nous explique qu'il n'y a pas de débat et que, comme disait Pierre, en gros, on n'arrête pas le progrès. Encore faudrait-il s'interroger sur ce que signifie le progrès. Alors pour montrer ça, on peut revenir sur un exemple flagrant, c'est celui de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été mise en place par Macron sous la pression des Gilets jaunes, des mouvements sociaux, etc. Donc il a créé cette Convention citoyenne pour le climat, à laquelle il a demandé de formuler 150 propositions en promettant que ces propositions-là seraient reprises, soit telles quelles, soit présentées à l'Assemblée sans filtre, soit soumises à référendum. Le jour où ces propositions ont été remises, il s'est accordé 3 jokers. Bon, ce qui était a priori pas prévu au départ, mais il a eu 3 jokers. Et aucun de ces 3 jokers n'a porté sur la proposition de la Convention qui était de faire un moratoire sur la 5G, le temps au moins de réaliser des études d'impact sanitaire et environnemental. Donc il ne proposait même pas d'annuler le déploiement de la 5G, il demandait juste du répit, du temps pour pouvoir savoir quels impacts aurait ce projet-là. Et quelques jours plus tard, Emmanuel Macron, devant un parterre d'entrepreneurs de la French Tech, a expliqué que de toute façon, la 5G se ferait. Et qu'il n'y avait pas de débat là-dessus. C'est à cette occasion qu'il a assimilé les opposants à la 5G à des amiches. Soit dit en passant, pour moi, être un amiche, ce n'est pas une insulte, même si je ne suis pas un amiche, mais passons. Qu'il a assimilé donc les opposants à des amiches et en disant que c'était soit la 5G, soit le retour à la lampe à huile. Et ça, c'est aussi symptomatique de quelque chose, c'est-à-dire que le message qu'il essaye de faire passer, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. C'est que c'est la 5G ou rien. Et ça pose un vrai problème, là encore d'ordre démocratique, c'est-à-dire qu'il n'a rien d'autre à proposer. Pour lui, le progrès passe nécessairement par ce grand projet industriel. Or, il y a beaucoup de choses à dire sur la 5G. Et cette 5G, elle pose divers problèmes. On peut penser que un seul de ces problèmes pourrait suffire à mettre le frein sur le déploiement de ce réseau, mais il en pose plusieurs, et on va essayer de les examiner un peu. Le but, c'est que je prévois à peu près une demi-heure pour qu'après on puisse échanger sur différents sujets et revenir sur certains sujets sur lesquels on peut approfondir. Donc c'est les problèmes que pose la 5G, ils sont, à mon avis, de plusieurs ordres. D'ordre sanitaire, d'ordre social, écologique et d'organisation de la société, de savoir dans quelle société on veut vivre demain. Parce que la 5G n'est pas seulement un réseau téléphonique de plus, c'est toute la société qui doit se réorganiser autour de ce réseau et on va vers une société de l'hyperconnexion où tout doit être connecté à tout, pas seulement les smartphones, Mais tout ce qui nous entoure, donc ça passe par les réseaux d'énergie, on l'a vu avec le compteur Linky pour l'électricité, Gaspar pour le gaz, les réseaux de transport, mais aussi l'ensemble des objets qui nous entourent. Il y a une société qui s'appelle la société Violet, qui est une société française, qui expliquait en 2012 avoir recensé l'ensemble des objets qu'ils trouvaient dans une habitation. Et ils avaient comptabilisé 6000 objets. Donc ils avaient vraiment tout compté, le frigo, mais aussi les paires de chaussettes, la brosse à dents, tout. Et en 2012, donc, ils disaient qu'il n'y avait que trois objets qui étaient connectés, la télé, le téléphone et l'ordinateur. Et la conclusion de cette société, c'était de dire qu'il en reste 5997 à connecter. Donc ça pouvait paraître fou en 2012, mais aujourd'hui, on est en train d'assister à l'avènement de ce modèle-là. Aujourd'hui, on trouve des couches connectées, des maillots de bain connectés, des frigos connectés, des lunettes connectées, et petit à petit, on voit tous ces objets apparaître dans notre environnement. Et donc, pour faire communiquer tous ces objets, les réseaux actuels n'étaient pas suffisants, d'où la nécessité pour les promoteurs de ce modèle-là de mettre en place la 5G. Alors, ça pose divers problèmes. Je vais commencer par celui de la santé. Ce qu'on sait pour l'instant sur la 5G, c'est qu'on n'a pas d'études sur l'impact sanitaire que peut avoir cette technologie. Mais on a par contre des études sur les réseaux précédents. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'études réelles, spécifiques sur les ondes utilisées par la 5G, il faut savoir que ce sera des ondes beaucoup plus, avec des fréquences beaucoup plus élevées, le discours actuellement des promoteurs, c'est de dire... de rassurer la population en disant « Mais rassurez-vous, les tests qu'on a faits montrent qu'on respecte toutes les normes qui sont en vigueur actuellement. » Et en fait, dans les faits, c'est vrai qu'a priori, avec la 5G, ils respecteront toutes les normes en vigueur. Mais le problème, c'est les normes elles-mêmes et la façon dont elles ont été fixées. Ça a été fixé à la fin des années 90 par un organisme qui s'appelle l'ICNIRP, qui travaille très étroitement avec l'industrie de la téléphonie mobile. Et en fait, ils l'expliquent, enfin, ils l'écrivent en toutes lettres dans leur travail. Ils ont considéré que les seuls risques avérés liés aux ondes, c'était les risques immédiats. Donc, quand les industriels disent que... on est protégé parce qu'il existe des normes et que ces normes sont respectées, en fait, ça vous garantit simplement que vous n'aurez pas la peau de l'oreille ou de la joue brûlée une fois que vous aurez fini votre conversation téléphonique. Ça ne vous protège pas des effets sur le long terme. Et là encore, ils l'écrivent en toutes lettres dans leur travail, ils disent que malgré le fait qu'il y ait des suspicions parce qu'il y a eu des études qui ont été réalisées, qui semblent montrer un lien entre l'exposition aux ondes électromagnétiques et l'apparition de certains cancers, d'insomnie, de migraines, de tout un tas de pathologies comme ça, ces risques-là sur le long terme ne sont pas pris en compte par les normes. Donc ça, c'est un sujet... Enfin, c'est, à mon avis, important de comprendre ça, parce qu'à partir de là, leur discours s'effondre, en fait. Dans les médias, c'est vraiment leur moyen de défense de dire qu'il y a des normes et qu'ils les respectent. Mais il faut savoir que ça ne nous protège pas des effets sur le long terme. Or, ce qu'on constate depuis plusieurs années maintenant, c'est de plus en plus de gens qui se plaignent de souffrir des ondes. Et tu pourras peut-être nous en parler tout à l'heure, mais il y a de plus en plus de personnes qui disent souffrir des ondes. C'est une réalité qui est de plus en plus difficile à cacher. Donc ça, c'est un premier point. Et puis deuxièmement, il y a aussi des études. Récemment, il y a le NTP, donc qui est la plus grande agence de santé des États-Unis, qui a réalisé une étude qui a coûté plusieurs millions de dollars et qui a duré plusieurs années, qui portait sur les rats. Et la conclusion de cette étude, ça a été de dire qu'il existait un lien évident, une preuve évidente d'un lien entre l'exposition aux ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile et l'apparition de certains cancers. Or, la seule chose qu'on sait pour l'instant par rapport à la 5G, c'est que ça va augmenter notre exposition moyenne aux ondes électromagnétiques d'environ 30%. Ça, c'est des projections. Donc ce brouillard électromagnétique dans lequel on évolue déjà à travers les réseaux 2G, 3G, 4G, va encore être épaissi, augmenté de 30%. Donc au minimum, le déploiement de la 5G nous fait prendre un risque d'ordre sanitaire. Ça, c'est indéniable. Donc à partir de là, on peut se demander au nom de quoi on nous ferait prendre ce risque-là. Quelles sont les contreparties ? Donc, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve d'un point de vue écologique, évidemment, les promoteurs de la 5G vont notamment tenter de faire croire que c'est un projet qui va dans le sens de l'écologie. Ça, de toute façon, à l'heure actuelle, tous les grands projets, ils passent entre les mains de communicants. Et ces communicants-là vont essayer de bâtir un argumentaire pour dire que ça va dans le sens de la transition, etc., etc. Sur la 5G, ils se sont mis à le faire, mais c'est franchement indéfendable, à mon avis. Pourquoi ? Par exemple, ils vont dire qu'une antenne 5G consomme moins qu'une antenne 2G, qu'une antenne 3G ou qu'une antenne 4G. Et il y a une part de vrai là-dedans, c'est-à-dire que pour une même quantité de données transmises, une antenne 5G va consommer moins d'énergie qu'une antenne 2G ou qu'une antenne 4G. Seulement, il faut déjà savoir que la 5G ne va pas remplacer les réseaux actuels, elle va s'ajouter aux réseaux actuels. Donc les antennes 2G, 3G et 4G qu'on a actuellement vont continuer à fonctionner. Et puis deuxièmement, la 5G, on nous promet des transmissions à une vitesse de transmission multipliée par 10. Mais ça, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée un effet rebond qui fait que, quasiment automatiquement, si vous permettez aux gens de télécharger plus, ils vont télécharger plus. On peut faire un parallèle avec la voiture. Si vous construisez des routes et des parkings, de façon quasiment inévitable, vous aurez plus de voitures en circulation. Et ça, on estime, les premières estimations, c'est que les transmissions de données vont être multipliées par 100, voire par 1000, si la 5G est mise en place. Donc pourquoi ? Parce que, fatalement, les gens, s'ils peuvent télécharger plus, télécharge plus en règle générale. Et puis, par exemple, pour télécharger une vidéo, il y a aussi toute l'industrie qui est derrière. C'est-à-dire qu'au lieu de l'envoyer en basse définition, ils vont l'envoyer avec une meilleure qualité. Donc, c'est des fichiers qui sont plus lourds, etc. C'est tout un mécanisme qu'il y a derrière. Et puis, en plus de ça, il y a tous ces objets communicants qui, à l'heure actuelle, ne sont pas communicants et qui sont voués à le devenir. Donc, ça aussi, ça augmente considérablement les transmissions d'électricité. Résultat, les premiers retours qu'on a qui arrivent de Chine, c'est une augmentation de la consommation électrique. C'est une multiplication par 3, voire par 3,5 de la consommation électrique depuis la mise en place des réseaux 5G. Alors tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment très loin d'être anecdotique. En France, on estime que ça pourrait augmenter la consommation d'électricité de 2%. Juste pour mettre en place ce réseau 5G. Et ces dépenses, pour avoir un ordre d'idée, aujourd'hui, le numérique, ça représente 3,7% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui veut dire autant que l'aviation civile. C'est plus facile de matérialiser la chose quand on voit passer les avions. On sait tous que les avions sont très polluants, mais le numérique émet autant de gaz à effet de serre que l'aviation civile. Et le problème, c'est que le numérique est en constante augmentation. Ça augmente de 8% par an. Si on voulait respecter les accords de Paris, il faudrait que ces émissions liées au numérique baissent de 5% par an. Au contraire, elles augmentent de 8% par an. Ce qui fait que si on continue comme ça, dans 5 ans, le numérique, ça représentera autant d'émissions de gaz à effet de serre que l'ensemble du parc automobile mondial. Donc on n'est pas sur des choses qui sont anecdotiques. C'est vraiment quelque chose de très important. Et quand on parle de dématérialisation, Là aussi, il faut casser ce discours-là. Le numérique, c'est des choses qui sont bien matérielles. Ça passe par des ordinateurs, par des serveurs, par des antennes relais, etc., etc. Par ailleurs, ce qu'on constate avec l'énergie, on pourrait faire le même constat avec les ressources naturelles, les matières premières, parce que, évidemment, tout ce monde de la 5G, ça va nécessiter de renouveler les smartphones, parce que une bonne partie de la population va vouloir avoir un smartphone compatible avec la 5G. Ça nécessite de créer ces milliards d'objets connectés qu'on nous promet. La Commission européenne elle-même parle de jusqu'à 1 million d'objets connectés au kilomètre carré. Donc tout ça, il va falloir le construire. Donc il va falloir aller puiser des ressources, des terres rares, ouvrir de nouvelles mines, aller creuser toujours plus loin dans la terre, avoir une pression toujours plus grande sur les milieux naturels. Et tout ça, évidemment, va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire si on veut se sortir, ou en tout cas limiter les effets du dérèglement climatique. Donc ce qu'on nous présente comme quelque chose d'ultra moderne, la 5G, c'est en fait la continuation d'un modèle capitaliste qui est en cours depuis deux siècles, qui consiste à puiser toujours plus de ressources, à utiliser toujours plus d'énergie et à encourager cette société de l'hyperconsommation. Donc c'est finalement un projet qui est issu d'un vieux modèle dont on connaît les conséquences sur l'environnement. Et tout ça donc se fait au nom d'un projet de société dont on nous a jamais informé de ce projet de société. On nous donne quelques pistes aujourd'hui parce que le débat s'est plus ou moins imposé dans les médias, mais sans quoi on n'en parlerait même pas. Alors au départ, la promesse de l'industrie, c'était de dire, grâce à la 5G, vous aurez des débits multipliés par 10, un temps de latence divisé par 10, et ils pensaient que la population allait adhérer automatiquement à cet argument-là. À mon avis, ils se sont un peu trompés, et finalement, ils se sont aperçus que ça ne faisait pas rêver grand monde de pouvoir télécharger un film de 2 heures en moins de 10 secondes. Je ne suis pas sûr que les gens en aient réellement envie, et réellement envie d'aller toujours plus vite. Du coup, ils ont commencé à adapter un peu leur argumentaire. Et parmi les deux arguments qui reviennent souvent, c'est la médecine et la voiture autonome. Souvent, quand on leur demande, mais pourquoi finalement, quel sera l'intérêt pour nous de cette 5G, ils passent assez rapidement et ils disent, il y aura plein d'applications, et par exemple la télémédecine et la voiture autonome. Et ça tombe très bien parce que ces deux exemples, quand on les observe, on peut se demander l'intérêt réel que ça aura pour nous. Par exemple, la voiture autonome. Qu'est-ce que va nous apporter la voiture autonome ? Il faut déjà partir du principe que je pense que personne ici n'aura les moyens de se payer une voiture autonome. Donc la voiture autonome, au pire, si vraiment ils arrivent à faire advenir ce modèle-là, ça remplacera finalement les taxis. Alors quel intérêt ? Ils nous disent, c'est formidable, vous pourrez être déplacé d'un point A à un point B sans avoir à conduire. Bon, mais ça, c'est un taxi, en fait. Ça existe déjà. Le service, on l'a déjà. La différence entre une voiture autonome et un taxi, c'est un emploi en moins. Il n'y a pas d'autres avantages pour nous. En revanche, il y a des inconvénients, l'emploi en moins, et puis le fait de devoir remplacer le corps du chauffeur de taxi et son intelligence, ça va passer par un réseau, donc sans fil, forcément, puisque c'est une voiture, des capteurs, des ordinateurs qui vont devoir calculer les informations envoyées par les voitures, etc., etc. Donc une consommation d'énergie qui va être énorme par rapport au chauffeur de taxi qui, lui, a besoin de 3 repas par jour pour pouvoir faire fonctionner son véhicule. Donc sur la voiture autonome, clairement, on n'a aucun avantage à cette invention. Le deuxième argument qu'ils mettent en avant, c'est celui de la télémédecine et de la téléchirurgie. Et là encore, il faut reposer les bonnes questions. Quels seront les avantages pour nous de cette télémédecine et de cette téléchirurgie? Ils parlent d'une expérience qui a été réalisée avec succès en Chine, d'un patient qui s'est fait opérer d'une tumeur par un médecin, par un chirurgien qui se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de son lit d'hôpital. La question, c'est pourquoi il y a eu cette nécessité de se faire opérer par un chirurgien qui se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de là? Qu'est-ce qui fait que ce patient se trouvait dans un tel désert médical qui fasse qu'on ait besoin de la 5G pour l'opérer à distance? Et aujourd'hui, quand le gouvernement essaye de nous dire que la télémédecine, ça va être quelque chose de formidable, c'est un gouvernement qui, en même temps, qui dit ça, supprime des lits d'hôpital, supprime des postes d'infirmières. Donc je veux dire, quelle médecine on veut? Et là, on touche vraiment, je pense, au cœur du problème, et je ne vois pas comment ils peuvent défendre leur modèle. C'est de dire, mais est-ce que le soin, c'est pas avant tout de l'humain? Est-ce qu'on peut dispenser du soin à travers un écran ou à distance? Et là, en fait, on voit que derrière, il y a toute une idéologie qu'on essaye de nous inculquer et de nous faire avaler, c'est de dire que le progrès, on revient à cette question du progrès, c'est de dire que le progrès est forcément technologique, passe forcément par de l'innovation technologique. Et à mon avis, on peut leur opposer un autre modèle qui passe au contraire par de l'humain. Parce que toute cette technologie-là, ça nécessite des milliards d'investissements, ça nécessite énormément d'énergie, on fait travailler des ingénieurs, on bâtit des laboratoires de recherche, etc. Donc tous les investissements sont mis dans les machines pour des choses qui seraient mieux faites par de l'humain. On le voit aussi, on l'a vu à l'occasion de la crise du Covid, avec quelle rapidité ils se sont jetés sur l'opportunité qui a été offerte par le confinement de mettre en place l'éducation à distance. Et là, pour eux, ça a été une occasion unique et inespérée, sans doute, de mettre en expérience en grandeur nature un projet d'éducation à distance. Donc, est-ce que demain, on va avoir, s'ils continuent sur ce modèle-là, des cours qui seront donnés à travers des tablettes? Et puis, bah, pourquoi pas, après tout, puisque si une enseignante peut dispenser un cours à 30 élèves sur une tablette, elle peut le faire pour 60, pour 100, pour 200. Donc là encore, on va investir dans du numérique et supprimer des postes. Et finalement, on retrouve toujours cette logique-là, de faire passer les investissements dans la technologie et de supprimer des emplois et d'effacer tous les facteurs humains. Il faut savoir que parallèlement à ça, les ingénieurs de la Silicon Valley qui, eux, construisent ces tablettes, construisent tout ce qu'il faut pour faire fonctionner ce modèle-là, eux inscrivent leurs enfants dans des écoles où les tablettes sont interdites et où il y a de l'humain. Donc en fait, quand ils essayent de nous faire croire que le progrès passe par la technologie et par du numérique, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de vie low cost pour une majorité de la population qui passera par du numérique et que les moyens humains seront réservés à une petite élite ultra riche et que eux, voilà, pourront bénéficier d'un modèle beaucoup plus humain. Donc je pense que déjà, le fait qu'on se réunisse, même si on n'est pas très nombreux, mais c'est un premier pas et je pense que la bataille fait que commencer, c'est super important parce que ça va passer par des petites réunions comme ça et il faut qu'on comprenne que la 5G, c'est quelque chose de très concret et qui n'est pas inéluctable. Et il faut, si on veut être efficace, qu'on leur oppose toujours un autre modèle en leur disant Vous, c'est cette voie-là que vous avez tracée. Nous, on n'est pas des Amish, on n'est pas forcément pour le retour à la lampe à huile, mais on a autre chose à proposer et il doit y avoir des alternatives à ce modèle de la 5G. Je termine juste parce que j'en ai pas parlé. La 5G, c'est aussi un modèle de société qui repose sur le contrôle et une surveillance généralisée. Les premières années où ont été installées la 5G dans certains pays, notamment en Chine, 70% des objets connectés à la 5G, c'était des caméras de vidéosurveillance. Et vous avez sûrement vu ces informations où maintenant la vidéosurveillance est associée à la reconnaissance faciale et où le moindre fait et geste des citoyens chinois peut être examiné en temps réel et on leur attribue une note sociale, ce qui fait que s'ils traversent pas dans les clous, par exemple, leur note sociale est diminuée et en dessous d'une certaine note, ils ne peuvent plus prendre le train, ils n'ont plus accès aux prêts bancaires, etc. etc. C'est le crédit social, ouais, tout à fait. Et voilà, et ça a déjà aujourd'hui avec la 4G, on voit ce que ça peut donner. Je termine sur l'exemple du facteur pour voir comment ils arrivent à imposer cette société du contrôle. Aujourd'hui, si vous voulez inviter votre facteur à boire un café, normalement, il doit refuser et il peut être contrôlé par sa hiérarchie. Parce que quand vous signez un recommandé, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous ne signez plus sur un bout de papier, vous signez sur un boîtier numérique. Et à travers ce boîtier numérique-là, il peut être pisté en fait, tout au long de sa tournée. Et aujourd'hui, il n'a plus le droit de rentrer chez vous pour boire un café. Pourquoi ? Parce que la Poste a mis en place un abonnement qui s'appelle « Veiller sur mes parents ». Vous devez payer, ça dépend, ouais, une trentaine d'euros. Après, ça dépend combien de jours vous voulez l'inviter à boire un café. Mais mettons que vous payez 30 euros et donc le facteur, ce coup-là, sera obligé de venir boire le café chez vous parce que la Poste aura été rémunérée pour ça. Donc ils arrivent à monétiser même les rapports humains les plus élémentaires, je dirais.